Voilà, vous allez pouvoir, cher Fabrice Arfi, reprendre un peu votre respiration pendant que je vais vous présenter rapidement. Voilà, puisque M. Arfi arrive à l'instant même au train et juste à la librairie Mola maintenant. Donc je présente et dis quelques mots sur Fabrice Arfi, qui est journaliste à Mediapart actuellement. Vous êtes tout jeune, vous avez 33 ans. Hein. Dans votre livre, vous dites que ça fait 18 ans que vous êtes, 15 ans que vous êtes journaliste et que vous n'avez pas d'autre formation ou diplôme qu'un baccalauréat ES, hein, économie et sociale. C'est dans,
là où il y avait autant de filles que de garçons.
Voilà, exactement. C'est dans votre préface. Vous dites aussi plus loin, bien plus loin dans le livre, que vous êtes un petit-fils de gendarme juif déchu de sa nationalité sous Vichy. Et vous aurez l'occasion de revenir peut-être pourquoi vous dites ça à ce moment-là, page 83. Hein, c'est dans un contexte très précis hein, où on vous insulte en fait. Et puis également, page 46, vous dites que votre père, Alain, est un ancien inspecteur de la brigade financière de la PJ de Paris et qui vous a fait une confidence qui ne vous lâche plus depuis, dites-vous. C'est une belle phrase, hein, vous allez voir. Tout amateur de Cluedo peut en faire sa devise. Dans une affaire criminelle, tu as un cadavre, mais tu n'as pas les auteurs. Dans une affaire financière, tu as les auteurs, mais il faut trouver le cadavre. Alors, on verra plus loin dans notre conversation et à la fin de votre livre, vous ne désespérez pas de faire que les affaires financières soient des affaires criminelles, d'ailleurs. Hein. Ça pourrait se retrouver quand même, hein, ouais. se rassembler. Première question que je voudrais vous poser, je ne voudrais pas que vous la preniez comme une provocation, mais avec ce patrimoine familial, si je puis dire, dans l'enquête, hein, un gendarme, un inspecteur, est-ce que vous n'avez pas un peu la mentalité d'un flic quand même ?
Bon, bonsoir à tous, excusez-moi pour le retard. Non, ce n'est pas du tout une provocation, on a connu pire. Hein. Non, je ne pense pas du tout ni être un policier ou un gendarme frustré, un magistrat qui ne dit pas son nom, un juge qui ne s'avoue pas, un chevalier blanc ou un Torquemada, qui sont souvent les termes outranciers qui nous sont accolés quand on met sur la table des informations qui ont le malheur de déplaire. Pas du tout. Il se trouve qu'il y a un petit logiciel familial, mais mon grand-père, vous savez, en Algérie, c'était un juge de paix, comme le Kaiser, ce qu'on appelait le Kaïs dans les villages. C'était pas l'enquête au sens où on peut en parler aujourd'hui.
C'est une sorte de super garde champêtre.
Oui, voilà, c'est exactement ça. Mon père, c'est un peu autre chose. Donc il y a peut-être une forme d'ADN familial, mais qu'il ne faut pas voir. Mon père a quitté la police parce qu'il en avait, il en avait marre. Qu'il ne faut pas voir comme une appétence pour avoir une vision policière de l'histoire. Donc pas du tout. Moi, je me considère comme une sorte d'instituteur du réel. Voilà, qui
c'est
est là.
Ce que vous dites à la fin de votre texte. Ouais. Hein. C'est une belle expression, ça. Mais je vais, puisque vous répondez par là, vous dites ici, il n'y a aucune volonté purificatrice de l'âme des hommes derrière le journalisme d'enquête. Quand il révèle et dérange, contrairement à ce que j'ai parfois entendu ces dernières années, tout au contraire, je vois plutôt les journalistes comme des instituteurs du réel qui interrogent au nom de tous ceux qui sont censés nous représenter en nous gouvernant. Donc on pourrait presque dire que finalement, vous êtes dans une forme de mission de service public.
Ah bah ça me va très bien, j'aime beaucoup ça, d'être une sorte de passeur, d'interrogateur d'une idée, d'une forme de bien commun, sans avoir un rapport moral à tout ça. Ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, en essayant le plus sincèrement possible, hein, de raconter un peu la coulisse du travail de journaliste, ça c'est sur la forme, et sur le fond d'essayer de comprendre ce que les affaires, au-delà des faits eux-mêmes et des personnalités connues ou pas, mises en cause, ce qu'elles nous disent, ces affaires de nous-mêmes, de notre République, de nos crispations culturelles, c'est-à-dire à nous tous, politiques, c'est-à-dire aussi un peu à nous tous, institutionnelles ou judiciaires, qui ne nous fait pas considérer la lutte contre la corruption comme un enjeu majeur au même titre que la lutte contre le chômage ou les déficits publics, sachant que c'est parfois intimement lié. Voilà, et donc, de ce point de vue-là, oui, instituteur du réel, parce que je n'ai pas cette conception journalistique qui considérerait que le journaliste est là pour aider à accoucher la parole de celui qui a déjà la puissance de communication. Ça peut être l'homme politique, mais ça peut être le chef d'entreprise, ça peut être aussi être le syndicaliste, c'est pas une question de sociale, hein, entre guillemets, je veux dire de casse ou de niveau social. C'est-à-dire que je considère comme s'il devait y avoir une sorte de verticalité qui va de haut en bas et que le journaliste serait une forme de passeur, d'accoucheur dans une maillotique, comme ça, de la parole qui vient d'en haut pour le bon peuple et les bons citoyens qui sont en bas. Je ne considère pas du tout comme ça, je pense faire partie comme tout le monde ici de la masse des citoyens. Et qui interroge en effet, alors c'est des grands mots qu'on aime bien utiliser à Mediapart, mais c'est parce qu'ils nous font vibrer, mais qu'on interroge notre démocratie. Et ça part du principe que je crois que les journalistes sont des vrais facteurs d'intranquillité intellectuelle, d'intranquillité au bon sens du terme, c'est-à-dire de considérer que la démocratie, c'est pas une sorte de marbre gravé qui ne bouge pas, qui ne serait questionné qu'au moment des élections, mais que c'est un mouvement permanent. Et de ce que je connais dans ma pratique du journalisme, je trouve que les affaires sont des crash tests formidables. Voilà. Alors, vous savez, c'est comme quand on teste une voiture, on fait un crash test, on la lance contre un mur pour voir si la carrosserie est solide.
Alors, c'est ce que vous dites.
Et là, les affaires, pour moi, c'est ça, montre que notre République, sa carrosserie n'est pas solide.
Pardon, je vous laisse finir. Vous dites justement, page 10, vous dites les affaires ont un sens. Mmh. Alors, c'est presque tout votre livre. Hein, donc,
même son titre.
quel principal sens peut-on trouver aux affaires ?
Le sens des affaires, dans la poursuite de ce que je disais, c'est que précisément, elles nous permettent de nous tester nous-mêmes et de tester nos institutions au-delà de ce qu'elles racontent. Et quitte à provoquer, depuis Cicéron, on sait qu'il y aura toujours un corrompu, un corrupteur, ouais. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de volonté purificatrice de l'âme humaine quand on fait ce travail-là. Il y aura toujours des gens pour la révéler, on espère, notamment des journalistes. Et le problème n'est pas que le premier ou les seconds existent. Le problème, c'est qu'une fois que c'est sur la table, on ne se donne pas tous les moyens de lutter efficacement pour. Et ce qu'il y a de formidable dans la pratique du journaliste, c'est de pouvoir réunir des éléments factuels, tangibles, qui nous permettent de tirer des formes de conclusions qui ne sont pas des théories qu'on sort de notre chapeau, mais qui nous permettent de voir que concrètement, il y a des rouages dans notre société qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, culturels, politiques, institutionnels et judiciaires, policiers et judiciaires, qui nous empêchent d'affronter la corruption comme elle devrait l'être. Et ça participe d'une énorme fatigue démocratique, immense. Ça, c'est le coût symbolique de la corruption, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ceux qui nous représentent en notre nom... Échappent aux lois communes, n'ont pas le même traitement que nous. Il y a des exemples très, très précis. Hein. Par exemple, dans notre pays, en France, il y a un tribunal d'exception qui existe encore pour les hommes politiques. Voilà, ça s'appelle la Cour de justice de la République. Ça n'est pas un tribunal qui vous jugerait, vous et moi. C'est une cour spéciale qui a été conçue pour...
Attendez, ouais. Ça, c'est un vrai débat. Hein. Par exemple, la présence de la Cour de justice de la République. Oui. Alors, on peut dire que c'est un tribunal spécial et ça permet de les juger de manière différente des
citoyens. Ça permet surtout de ne pas les juger.
Attendez.
Si on fait les statistiques de la Cour de justice de la République.
C'est un petit peu plus complexe quand même, parce que dans la réalité, vous savez très bien qu'une des, un des principes de la responsabilité politique, c'est ce qui a été un des fondements de la démocratie britannique en 1689, etc. Ça a été de dire les hommes politiques seront jugés par les citoyens, par le vote, hein, et dans l'exercice de leur fonction politique, c'est là qu'il faut bien dire, hein, dans leur mandat politique, à ce moment-là, ils sont traités judiciairement par leur pair. Ça, c'est pas quelque chose de spécifique à la France.
Non, mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire, oui, c'est un immense...
Non, mais attendez. Dit très vite, pardon, c'est un débat, mais dit très vite, c'est-à-dire, voilà,
c'est un débat, si on peut répondre.
Les hommes politiques sont à part, ils sont protégés.
Oui, c'est vrai.
Vous conviendrez avec moi qu'il faut tout dire. Ils sont protégés dans l'exercice des fonctions qui sont détachées, qui sont pas détachables de leur fonction ministérielle.
Oui, bien sûr.
Voilà. Je précise
C'est-à-dire que c'est précisément au moment où ils ont les leviers du pouvoir et donc de la corruption ou d'être corrompus. Mais donc c'est au moment où le danger est réel. Et dans l'exercice de ces fonctions-là, quand ils sont jugés, il suffit de regarder les statistiques de la Cour de justice de la République qui a montré, fait la démonstration de l'extrême mollesse de ces enquêtes et de l'infinie faiblesse des peines et des sanctions quand il y a des sanctions. Et cerise sur le gâteau, et même peut-être gâteau sous la cerise, quand une affaire, et c'est rarissime, arrive à son terme, c'est-à-dire au moment du procès, les hommes politiques en question, les ministres qui sont jugés, ou anciens premiers ministres, ça n'est jamais arrivé, ça arrivera peut-être avec Édouard Balladur, et je vais vous montrer, je vais faire la démonstration factuelle de ce que je dis, ils sont jugés non pas par des magistrats, en majorité, il y en a trois, mais surtout par des députés. C'est-à-dire qu'ils se jugent entre eux. Et c'est... Alors, on peut discuter, évidemment, mais tant mieux qu'il y ait un débat. Je considère que, vu ce qui est aujourd'hui l'immense fatigue démocratique dont je parler, que ça participe d'une forme de dégoût citoyen d'un monde politique qui ne nous représente plus.
D'accord. Voilà.
Alors, je vous donne un exemple très concret. Mediapart a révélé le 13 septembre 2008 les éléments, les informations qui feront ensuite et seront à l'origine, près de 3 ans plus tard, de l'enquête financière sur ce qu'on a appelé le volet financier de l'affaire Karachi. Bon, immense histoire de détournement d'argent sur les ventes d'armes de l'État français au Pakistan. À l'Arabie Saoudite et comment un clan gouvernemental a détourné, c'est un vrai fric-frac d'État, a détourné des centaines de millions de francs pour des enrichissements personnels ou pour du financement politique illégal. Bon, il y a eu une enquête du juge Van Rumbeek qui a réuni, c'est très rare dans ce type d'affaires, une cathédrale de preuves. L'an prochain, en 2015, il va y avoir un procès au tribunal correctionnel de Paris qui devrait à peu près durer un mois et demi, vont être jugés 20 ans après les faits, en 2015, 20 ans après les faits, les seconds couteaux, les doublures de messieurs Balladur, Léotard et Sarkozy, en les personnes de son directeur de cabinet Nicolas Bazire, conseiller spécial Renaud Donnedieu de Vabre, et le porteur de valise et conseiller spécial de monsieur Sarkozy, Thierry Gobert. Eux vont être jugés. Les responsables politiques de cette affaire, 20 ans après, l'affaire ne vient que d'être commencée à être du bout des doigts examinée par la Cour de justice de la République l'été prochain. Cet été. On ne sait pas s'il va y avoir des poursuites ou pas. Monsieur Balladur est très vieux. Quel est le sens de tout cela? Quelle est la pédagogie citoyenne? Une enquête qui va durer quoi? 3, 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans? Les citoyens qui regardent tout ça, ils se disent mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Et je ne veux pas faire de démagogie de bas étage, mais faites un tour dans les salles de comparution immédiate où on envoie des gens en prison ferme, pour des délits qui sont évidemment des délits qu'il faut punir. Et à côté de ça, on a des temps d'enquête avec aujourd'hui des cabinets d'avocats d'affaires qui défendent les hommes politiques. Les enquêtes sont très longues. Les procès, quand il y en a, accouchent de sanctions qui sont ridicules. Et vous prenez l'exemple britannique qui nous font passer et qui font rire tous les citoyens britanniques ou nos confrères britanniques qui nous regardent. Aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, on va... Je ne suis pas du tout un partisan du tout carcéral, mais on va en prison concrètement quand on triche avec l'argent public, avec le bien commun, avec la fraude fiscale. Alors, parce que, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que la corruption a un coût symbolique, c'est la fatigue démocratique, on peut l'appeler comme ça, ou autrement, pardon, peu importe, mais elle a un coût pour nous tous financier. C'est-à-dire qu'elle nous coûte financièrement à nous tous. La fraude fiscale nous coûte, la corruption nous coûte. Quand un marché public est truqué dans une petite municipalité, ça a un impact. Ça a un impact sur les finances publiques. Alors, pensez donc l'impact qu'a la fraude fiscale, qui n'est pas simplement le lieu de l'évitement de l'impôt, pour ne pas payer de l'impôt, c'est surtout, les paradis fiscaux sont surtout la boîte noire de la corruption, parce que ce sont des caisses noires qui, à l'abri des lois communes, permettent de dissimuler l'origine et la destination inavouable de l'argent noir. Je vous donne juste un chiffre. L'argent dans les paradis fiscaux dans le monde, selon les meilleures études, c'est 28 000 milliards de dollars. 28 000 milliards de dollars qui échappent à la richesse des nations. Donc, ce que je veux dire en donnant ce chiffre, c'est le plus que le PIB cumulé des États-Unis et du Japon. C'est que ce n'est pas un problème qui est à la marge de notre économie mondiale. C'est un problème qui est au cœur de notre... Voilà. Et donc, face à cela, nous, on a depuis 30 ans des lois qui nous font passer du plumeau au tournevis, du tournevis au burin pour fracturer une porte blindée. Alors, et c'est insupportable, donc, de mon point de vue.
On avait compris. Vous indiquez que la France, puisque vous, après la réflexion sur la grande fatigue démocratique, vous dites que ça révèle l'incapacité chronique française à y répondre durablement. C'est ce que vous venez de dire. Mmh. Alors, à l'appui de ce que vous dites, hein, je ne pense pas que vous le citez dans votre livre, mais quand on regarde les rankings, par exemple, de Transparency International, la France est au 10e rang des États européens les moins corrompus.
Enfin, c'est la perception. Hein.
Et au 22e rang mondial sur 177 États. Donc, la réalité, c'est vrai, c'est que la France semblerait, plus par rapport à des États à niveau de développement démocratique comparable, en retard par rapport à des standards hein, de lutte contre la corruption. À quoi est-ce que vous avez réfléchi un peu aux raisons de cette situation française, de ce mal français ?
Ah oui, il y a plein de raisons. C'est que, d'abord, il y a une raison politique. Je vous donne une anecdote qui, pour moi, que je cite dans le livre, qui, pour moi, résume à la fois d'un point de vue politique et quasi culturel l'idée selon laquelle nous n'avons pas terminé certaines révolutions. Quand nous sortons l'affaire Bettencourt à Mediapart en juin 2010, à l'époque, Jean-François Copé, aujourd'hui connu pour l'affaire Big Malion, mais à l'époque, il était patron du groupe UMP à l'Assemblée nationale, qui est un poste clé dans la République, a fortiori quand le dit parti est au pouvoir, fait un meeting à Lyon, ville d'où je viens d'ailleurs. Nous sommes quelques jours après les premières révélations de Mediapart, et réagissant à l'affaire Bettencourt et aux éléments qui seront aujourd'hui au cœur d'un procès qui va avoir lieu ici même, à Bordeaux, en début d'année, il dit « Il y a une ambiance malsaine de nuit du 4 août dans ce pays. » La nuit du 4 août, c'est l'événement le plus bouleversant de notre République. C'est l'abolition des privilèges. Voilà. C'est-à-dire que... C'est Jean-François Copé qui dit ça, mais ce n'est pas du tout un propos droite-gauche que je dis, et précisément, j'essaie de développer cette idée dans le livre, qu'il y a une communauté de vues transpartisane à avoir sur la lutte contre la corruption, le bien commun, l'argent public, tout ça, il n'a pas de couleur politique, il nous appartient à nous tous. C'est la beauté de l'argent public, c'est-à-dire c'est l'argent solidaire qu'on se doit les uns les autres. Bon, considérer pour un homme politique de premier plan que la nuit du 4 août a des échos pour lui malsains, pour moi, dit tout d'une forme d'état d'esprit vis-à-vis de l'accaparement du bien public et de tout ce qu'a révélé l'affaire Bettencourt sur son volet non familial, qui, moi, ne m'intéresse pas, bien qu'il est attrayant, mais en termes de pédagogie, il ne m'intéresse pas. En revanche, la fraude fiscale en centaines de millions d'euros de Mme Bettencourt, l'absence de contrôle fiscaux, les passe-droits, comment on manipule la justice à des fins politiques, on l'a vu avec notamment le procureur Courroie, les questions sur le financement politique, tout ça, bon, sont aujourd'hui plus que documentés, au point de recouvrir des délits qui seront jugés dans cette ville. Et voilà un homme qui nous dit que tout ça lui fait penser au caractère malsain de la nuit du 4 août.
Donc ça, c'est un trait français.
Ah oui, c'est un trait français. Et sincèrement, pour discuter beaucoup et converser avec mes confrères de la presse étrangère, ils nous regardent avec des yeux mais écarquillés. En Angleterre, il y a eu, il y a 3-4 ans, une grande affaire qui avait été révélée par un journal dit conservateur, le Daily Telegraph, sur les notes de frais des députés. Du Parlement britannique, c'est-à-dire comment ils se faisaient rembourser pour leurs notes de frais tout et n'importe quoi avec des passe-droits faramineux, et comment avec l'argent du contribuable britannique ils payaient des maisons à leurs filles, à leurs enfants, à leurs fils, peu importe, ou qu'ils faisaient n'importe quoi avec l'argent. Ça a eu des conséquences institutionnelles immenses. C'est-à-dire que près de la moitié du Parlement n'a pas été renouvelé aux élections suivantes ou parce que les gens ont démissionné. Et il y a eu des enquêtes judiciaires. Et pour des fraudes s'élevant à quelques milliers d'euros, des députés sont allés en prison. Et on dit pardon au peuple. En France, je vous donne l'exemple des notes de frais des députés en France. Ça s'appelle l'IRFM, l'indemnité de représentation de frais de mandat. Chaque député ou chaque sénateur, quand il arrive au Parlement, il a trois compte bancaire, trois enveloppes, une enveloppe pour ses indemnités à lui, une enveloppe pour payer ses collaborateurs et une enveloppe qui est l'IRFM, les notes de frais. C'est non contrôlé. Personne n'a un droit de regard là-dessus. Il tombe sur ce compte bancaire qui est spécifique, 6 à 7 000 euros par mois, il en fait ce qu'il veut, personne ne peut savoir ce qui se passe. S'il veut acheter des tableaux, des voitures, donner l'argent, se le reverser en salaire, il en fait ce qu'il veut, personne n'a un droit de regard, ça n'est même pas fiscalisé. Bon, et qui pourrait concevoir des pratiques pareilles dans le monde de l'entreprise, par exemple ? Qui pourrait concevoir des pratiques pareilles dans d'autres démocraties, dans d'autres parlements ? Ça n'existe pas. Donc oui, je trouve qu'on est culturellement parfois un peu au Moyen-Âge en France vis-à-vis de ce bien commun-là.
Alors, page 18, toujours, on reste un peu pour l'instant dans votre définition de votre travail, de votre engagement, hein, puisque c'est vraiment ça. Vous avez une belle image, vous dites que vous aimez la corrida, hein, pardon, j'espère que ça ne va pas vous poser des soucis, mais...
je conçois très bien qu'on puisse la détester, voilà. Je l'aime pour des mauvaises raisons.
Non, vous définissez comme celui qui dirait au taureau, en fait, les citoyens, lors de la corrida, alors que le taureau est attiré par le chiffon rouge de la muleta, et attention taureau, il y a un truc. Et vous citez la très belle phrase de Walter Benjamin, qui est un des plus grands philosophes du XXe siècle, vous seriez un avertisseur d'incendie. Première question, ça serait quoi le truc qui truquerait la relation entre gouvernants et citoyens, l'équivalent du chiffon rouge, quoi, ou de la muleta. Et puis l'incendie, puisque vous parlez de vous citer cette phrase de Benjamin, l'incendie dont vous voudriez vous être en quelque sorte un avertisseur, il se manifeste sous quelle forme ?
Alors le truc, entre autres, c'est cette... Il y a deux auteurs qui me prennent par la main dans ce livre, parce que j'ai essayé très modestement de prendre un peu de hauteur par rapport aux faits, pour, en racontant chaque histoire, chaque affaire, essayer d'en tirer une leçon de choses à chaque fois. Bon, il y a deux auteurs qui m'accompagnent quasiment tout le temps, c'est George Orwell et Guy Debord.
Alors, la fin des animaux, hein, George Orwell, la société du spectacle, et les commentaires sur la société du spectacle.
Surtout le commentaire sur la société du spectacle, pour ceux que ça intéresse.
De Guy Debord.
Qui est un vrai prophète en la matière. Le truc, c'est notamment cela. C'est l'idéologie de la communication. Et je le dis un moment dans le livre, pour moi, le pire ennemi du journalisme n'est pas le mensonge, par exemple, confère l'affaire Cahuzac. Le mensonge de Jean de Cahuzac n'est pas un sujet pour moi du tout.
Les communicants sont devenus les nouveaux sorciers de la vie publique.
Tout à fait.
Page 226,
c'est voilà,
tout à la fin.
Le truc, c'est la communication. Ouais. C'est-à-dire l'esprit de la publicité appliqué au bien commun. Appliqué à la politique. Une campagne électorale, ça n'est plus une campagne électorale, c'est un spot publicitaire. Et de ce point de vue-là, l'affaire Big Malion est un révélateur formidable. La leçon de choses de l'affaire Big Malion, dont je ne parle pas dans le livre parce qu'elle est arrivée après, mais la leçon de choses de l'affaire Big Malion, c'est cela. C'est cela, au-delà des faits, de l'explosion des frais de campagne, etc. C'est d'abord que nous avons un système de contrôle du financement de la vie politique qui est aberrant, qui est totalement inexistant, nous avons la réduction à la campagne électorale, à une course après l'argent, c'est-à-dire qu'il y a le plus d'argent qui pourrait éventuellement gagner, mais surtout à une idée que les citoyens seraient des espèces de consommateurs d'un message publicitaire qui aurait, comme le Canada Dry, le goût, la couleur de la politique. Et ça, c'est dramatique, c'est une dévitalisation totale de la démocratie. Et de ce point de vue-là, nous on le voit dans notre travail à Mediapart, nos adversaires, entre guillemets, ce sont les communicants. Ce sont les communicants, c'est ceux qui essayent de faire barrage entre l'information, les faits qui nous amènent tous à réfléchir, ils nous appartiennent à tous, les faits, il y en a qui sont pour, contre, ni pour ni contre, bien au contraire, peu importe, mais c'est à nous de nous en emparer. Et là, nous avons des sorciers, une horde de personnes qui sont là pour les trafiquer, les truquer, les rendre publicitaires, les manipuler. Et toutes les affaires ont notamment été prise au piège de cela, la plus peut-être parce que ça a été dans un temps court avec une espèce de bataille un peu ridicule qui s'était résumée à une sorte de mano à mano entre un journal et Mediapart et un membre du gouvernement, pardon, c'était l'affaire Cahuzac. Voilà. Donc pour moi le truc c'est cela, c'est de ne pas se laisser divertir. Voilà. Et il y a une forme de divertissement, d'hypnose. Alors de ce point de vue-là, les chaînes d'info en continu sont une forme de voilà, on atteint pour moi un spectacle qui est parfois terrible, où on passe tout son temps à vous dire attention, il va se passer quelque chose, en fait il se passe rien, ou le flux.
Au lieu de regarder la lune, comme on dit, on regarde le doigt.
On regarde le doigt, exactement. Quand on monte la lune, on regarde le doigt. C'est un peu ça. Et ce flux d'informations, provoque en fait l'amnésie. On ne sait plus ce qui est important ou pas important. Bon. Et de ce point de vue-là, ce que je veux dire par là, c'est que ça doit nous interroger, nous, journalistes, y compris Mediapart. Alors, nous, on a une chance énorme, c'est qu'on est totalement indépendant. On est indépendant économiquement, on n'a pas de fil à la patte. C'est pour ça qu'on a voulu se donner les moyens de cette obsession journalistique là. Mais ça doit interroger ce qu'est aussi notre système médiatique. Et je parle d'un point de vue global, y compris capitalistique. Et là, de la même manière, les confrères étrangers nous regardent d'une manière extrêmement surprise en voyant les grands médias français, les grands groupes appartenir à des industriels dont le cœur d'activité n'est pas l'information, mais c'est vendre des armes, vendre du BTP, faire la banque ou faire de la téléphonie mobile. Bon, c'est, comme le disait George Orwell, des industriels qui ont toutes les raisons d'être malhonnêtes quand ils prennent possession de l'information. Ils ne prennent pas possession de l'information pour l'information, mais pour l'influence. Et cela, ça ne crée pas un écosystème médiatique qui est sain. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit sain. Ça ne veut pas dire que dans tous ces journaux, il n'y a pas des journalistes exceptionnels et des reportages et des enquêtes formidables. Ça n'est pas du tout mon propos. Mais l'écosystème n'est pas sain pour s'attaquer de plein fouet aux canailleries.
Alors, il y a plusieurs affaires que vous présentez. L'affaire Karachi, l'affaire Bettencourt, l'affaire Cahuzac. Un point sur lequel vous avez travaillé, une affaire que vous avez travaillée, c'est les déclarations de Laurent Blanc à propos de la présence de joueurs de couleur dans l'équipe de France. Je résume
dans les centres de formation.
Dans les centres de formation, en particulier à l'Institut national du football de Clairefontaine. Voilà. Bon. En fait, c'est la question de former des joueurs qui ont la double nationalité et qui repartent éventuellement dans leur pays jouer sous les couleurs de leur pays d'origine, on va dire.
Sauf que la double nationalité, on ne la sait pas à 12 ans.
Voilà.
Donc on la devine à la consonance du nom, à la couleur de la peau.
Je voudrais faire ce détour par cette affaire, parce que c'est assez touchant.
Et la une de Sud-Ouest aujourd'hui.
C'est assez touchant aujourd'hui parce que...
Vous avez vu les déclarations de Willy Sagnol qui dit que les Noirs, ils sont puissants, et on n'a pas besoin que de Noirs, parce qu'on a aussi besoin d'intelligence dans le jeu.
Alors,
C'est ce qu'il dit dans Sud-Ouest. Et c'est l'écho...
Oui, de ce que vous...
C'est l'écho somatre, 3 ans après, de ce qu'on a appelé l'affaire des Noirs.
Vous commencez ce chapitre en disant vous avez le souvenir du match contre l'Uruguay, le Paraguay, c'est ça,
France-Paraguay.
Avec le but en or marqué par Laurent Blanc, là, je ne sais plus combien, 113e minute. Bon. C'est à travers ce qu'on vous... On vous apporte un enregistrement d'un débat, d'un échange.
Ouais.
Hein, quand même, il y a un dictaphone qui a enregistré une conversation. D'accord.
On le sait après, ça, en fait.
On
nous rapporte d'abord qu'il y a un projet stupéfiant au sein de la Fédération française de football. Et ce sont des gens de la Fédération qui nous
rapportent. Et après, on vous apporte un dictaphone.
Ouais.
C'est un enregistrement. C'est la deuxième fois qu'il y a un dictaphone dans votre bouquin. La première fois, c'est le valet de Madame Bettencourt, son majordome, qui enregistre les conversations pendant 21 heures en planquant le dictaphone sur la cheminée. Est-ce que...
Sur une desserte où on sert...
Oui, voilà, oui. Est-ce que vous ne travaillez pas beaucoup avec des dénonciations?
Moi, j'appelle ça des lanceurs d'alerte. Appelez ça des dénonciations. Je travaille surtout avec des informations. Prenons les exemples.
Pourquoi vous refusez le mot de dénonciation?
Non, mais parce que ça recouvre quelque chose de négatif dans lequel je veux pas me m'inclure. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi.
D'accord. Oui.
Prenons l'exemple de ça ne s'invente pas. Son nom, c'est Pascal Bonnefoy, le majordome de Madame Bettencourt. Il y a une procédure judiciaire depuis fin 2007 qui vise à établir, c'est la brigade financière qui s'en occupe, si Madame Bettencourt, femme la plus riche d'Europe, est victime d'un balai d'aigrefin autour d'elle qui, profitant de sa faiblesse psychologique et physique, font une sorte de braquage en costard-cravate auprès de cette vieille dame. elle va être détroussée quand même de plus d'un milliard d'euros. Hein, donc on n'est pas sur des petites histoires. Donc il y a une enquête en cours. Dans le cadre de cette enquête, tous les domestiques de la maisonnée Bettencourt vont voir les policiers et témoignent et disent « bah oui ». Oui, il y a des avocats, oui, il y a des notaires, oui, il y a des hommes d'affaires, oui, même des politiques qui profitent de Madame Bettencourt pour lui prendre son argent. Elle en a beaucoup, certes, mais elle n'a pas tous ses moyens pour décider ce qu'elle doit en faire. Bon. Tous les domestiques qui sont allés témoigner devant la police, comme par enchantement, ça s'est su par le gestionnaire de fortune qui était un peu le personnage principal de la maisonnée, qui était M. Patrice Demestre, descendant direct de Joseph Demestre, hein, le théoricien de la contre-révolution.
Attendez, mais quand vous faites ça, c'est...
Non, bien sûr.
Il y a trois pages dans le bouquin.
Bien sûr, oui, mais parce que...
Là, c'est un peu dur quand même.
Oui, c'est dur. Non, mais je ne fais pas de génétique.
Mais bon.
Mais je trouve que ça nous dit aussi quelque chose qu'il faut accepter de regarder. Mmh. Bon, passons. Mmh. On reviendra, si vous voulez, là-dessus, bien entendu. Mmh. Toutes les personnes qui ont témoigné se sont fait saquer, harceler, virer, humilier. Par Patrice Demestre et par les entourages, parce qu'il ne fallait surtout pas faire exploser la tirelire de Madame Bettencourt, bon, et que l'affaire soit connue. Et dans tout ça, ils se parlent, les domestiques, entre eux. Hein, ils voient, les gens tombent en dépression, les gens sont virés, etc. Bon, il y en a un, Pascal Bonnefoy, qui dit c'est insupportable. Il le dit devant, sur procès-verbal d'ailleurs, devant les juges, il dit c'est comme si j'étais témoin d'un accident de voiture tous les jours et que je n'intervenais jamais pour sauver les gens.
C'est pas un gamin, il a 50 ans.
Les gens incarcérés, j'ai entendu le mot, c'est une forme de non-assistance en droit, il y a même une forme d'état de nécessité, hein, vous savez, c'était reconnu par le droit pénal, l'état de nécessité. Et lui, il a dit, moi, je vais faire quelque chose de pas bien pour faire quelque chose de mieux.
D'accord.
Voilà. C'est l'état de nécessité, c'est même la définition juridique de l'état de nécessité. Bon, c'est pas du tout ce qu'il plaide, il fait comme il veut, etc. Il dit, je vais aller chez les policiers, oui, mais avec plus que des mots. Je vais aller avec des preuves. Et ce quelque chose de pas bien que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose d'extrêmement déloyal. Je vais enregistrer les conversations d'affaires de Madame Bettencourt, puisque se trouve que Pascal Bonnefoy, il avait l'agenda, comme tout bon maître d'hôtel dans ce type de maison, de Madame Bettencourt, donc il savait qui elle rencontrait quand, et qu'il préparait précisément sur la desserte où il y avait les choses à boire. Il préparait les victuailles pour les réunions d'affaires. Tout cela se passait dans le bureau d'André Bettencourt, qui était décédé depuis novembre 2007. Et donc, il a décidé de, pendant 21 heures, pendant un an, ça a duré de mai 2009 à mai 2010, à capter les conversations de Madame Bettencourt et des gens pour ensuite aller à la police, et ce qu'il a fait, et dire « Voilà les preuves, et je suis prêt à en payer le prix pénalement. » Et il va en payer le prix, et nous-mêmes, on va être jugés, nous, pour avoir révélé ces enregistrements. Ouais. Justice est très ingrate pour avoir révélé ce qui deviendra les pièces à conviction de l'affaire judiciaire. Bon. Donc voilà quel est ce qu'a fait Pascal Bonnefoy. Avant de publier nos premiers articles qui prendront sous le titre « Les secrets volés de l'affaire Bettencourt », nous savons tout ça. Nous avons enquêté, nous avons vérifié, au-delà de tout le travail de vérification que j'essaye de détailler sur les enregistrements eux-mêmes, et surtout sur les faits qui révèlent. Sur les faits que révèlent les enregistrements, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, la fraude fiscale, l'émiction de l'Élysée dans des procédures judiciaires,
l'embauche de Madame Wörth,
les trafics, ce qu'on appelle un trafic d'influence, d'un point de vue pénal, sur les financements politiques, tout cela sont, je crois, des informations d'intérêt public. Elles le sont à ce point qu'elles ont été considérées par des juges comme des délits. Voilà. Et une douzaine de personnes va être jugée l'an prochain, ici même. Donc voilà qu'elle a été... Donc pour moi, Pascal Bonnefoy est un lanceur d'alerte. C'est un lanceur d'alerte. C'est le Edward Snowden de l'affaire Bettencourt. Mmh. Voilà. Edward Snowden, il a fait quelque chose de pas bien aussi. Hein, il a violé le secret auquel il était astreint. Il a fait quelque chose de mal. Il a piqué des documents à la NSA. Mais pour montrer quoi ? Pour montrer qu'il y avait une surveillance généralisée sans contrôle avec les moyens fous de la technologie actuelle. Bon, voilà. Et ce qui est arrivé à la personne qui a enregistré dans l'affaire des quotas de la Fédération française de football, c'est exactement la même chose. Il a alerté la Fédération pendant des semaines en disant « Attention, regardez ce qui se passe, c'est une folie, on est en train de développer des théories racialistes et on veut faire de manière informelle des quotas, pas plus de 20% de gens qui pourraient un jour prétendre à la binationalité ». Moi, je ne sais pas ce que c'est, la binationalité à 12 ans. Hein. Donc, on dit c'est parce qu'il est noir, parce qu'il est arabe, parce qu'il a un nom à consonance étrangère. Ça, c'est pour le côté binationalité. Ouais, ouais. Puis, de l'autre côté, c'est le critère sportif développé par Willy Sagnol dans Sud-Ouest aujourd'hui. C'est que nous, on en a marre d'avoir des grands costauds puissants, c'est-à-dire des blacks, comme dit, des noirs, comme dit Laurent Blanc. On veut des gens qui ont l'intelligence du jeu.
Avec cette phrase terrible de Lilian Thuram que vous citez, qui dit il y a longtemps, on m'a dit. Toi, avec ta force, Lilian, l'entraîneur, hein, ouais. Avec ta force et moi, mon intelligence, on ferait tous les deux un joueur remarquable.
Voilà, ouais, tout à fait. C'est ce que m'a raconté Lilian Thuram, tout à fait. Et c'est une anecdote d'enfant, ouais, quasiment. Ouais, ouais. Bon. Et voilà, et la personne, Mohamed Belkacemi, qui a fait ça, qui vient de Montreuil-Nord, une famille de misère, parents éboueurs, enfin père éboueur, mère au foyer, il a traversé, il a monté, il a gravi grâce au sport qui pour lui est un miroir social énorme, ce que ça renvoie, le sport comme au-delà du foot business dont on peut parler, comme pour permettre l'accomplissement d'une personne, il voit ça au sein du saint des saints du sport français, la Fédération française de football, et au sein de la Fédération française, la direction technique nationale, comme les domestiques de Madame Bettencourt, on ne l'écoute pas, même on se moque de lui, on dit que tout ça n'est pas vrai, donc il décide de faire quelque chose de pas bien, il enregistre, bon, qui est une réunion, une réunion où il y a une vingtaine, une trentaine de personnes autour de la table. Voilà, donc moi ce que je veux dire, c'est que, en disant ça d'un point de vue journalistique, je n'ai pas de rapport moral par rapport à mes sources. Ce qui m'importe, c'est de comprendre d'où elles me parlent, quels sont leurs intérêts, quelles sont les informations, si ces informations sont, un, d'intérêt public, deux, vraies. Si elles sont d'intérêt public et vraies, alors elles sont publiables. Voilà. Mais tout ça, ça demande d'avoir beaucoup de temps pour en perdre, pour vérifier alors, tout ça et jauger. Voilà. Encore une fois, on est dans un plein domaine d'intranquillité.
Dans votre livre, il y a un passage qui est tout à fait remarquable, c'est quand vous êtes auditionné par... le juge Gentil, il se trouve qu'il est un peu connu à Bordeaux, hein, puisque ça s'est passé ici.
Il est parti maintenant.
Mais ça s'est passé ici, pas très loin. Hein, il a une sorte de vous dites presque un moment, c'est pas un dialogue philosophique, mais il part un peu dans des considérations un peu philosophiques, hein, c'est ça. Enfin, vous employez l'expression.
Moi, j'adorais être mis en examen par le juge Gentil.
Hein. Alors. Et puis il part un quart d'heure, puis il revient et vous signifie la mise en examen. Voilà. Bon. Alors que vous avez été pratiquement l'élément déclenchant de toute cette affaire.
Totalement, même. Voilà. Ouais.
Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui vous a valu de vous retrouver dans le cabinet du juge, comme on dit ?
Et d'être jugé, hein, on va être jugé l'an prochain.
Voilà. Et donc vous allez vous retrouver, vous allez revenir à Bordeaux là, pour
un procès quelques jours, qui n'est pas audiencé contrairement aux autres. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand nous avons révélé toutes les affaires dont je parle, toutes, il n'y a pas eu une plainte en diffamation contre Mediapart, pas une. Donc pas, assuré encore moins de condamnation, mais pas une plainte en diffamation. En revanche, il y a quelque chose qui se passe beaucoup, notamment dans le monde politique ou économique français, c'est qu'on contourne le droit de la presse. Voilà. C'est-à-dire qu'on attaque les journalistes non pas sur le droit générique qui est le leur, à savoir la loi de 1881 sur la presse, et les journalistes ne sont pas au-dessus des lois. Nous avons évidemment à répondre de nos écrits devant les tribunaux si des gens s'estiment diffamés. Et c'est à nous d'apporter la preuve de notre bonne foi, puisque c'est sur la bonne foi que nous sommes jugés juridiquement en France. Donc aucune difficulté avec ça. En revanche, je trouve insupportable que l'on contourne le droit de la presse pour essayer soit de porter atteinte au secret des sources des journalistes, soit pour intimider, soit pour tenter d'étouffer une affaire. Bon, c'est ce qui s'est passé dans l'affaire Bettencourt. C'est-à-dire que quand nous avons publié les informations, y compris du temps à prendre hein, dans l'opinion publique, y compris chez les confrères, hein, puisque nous publions dans la nuit du 15 au 16 juin 2010, il n'y a pas de réaction, il ne se passe rien pendant 5, 6, 7 jours. En fait, il faudra que nous publions les enregistrements, le contenu des enregistrements même, puisqu'on n'a pas publié les sons tout de suite, pour qu'il y ait un espèce d'effet de sidération, où on entend notamment ce Patrice de Metz, comme Madame Bettencourt est sourde, de manière extrêmement pédagogique et avec des mots détachés, expliquer des délits en cours à Madame Bettencourt. Voilà, l'argent, Madame Bettencourt, il faudra mieux le mettre en Suisse, parce qu'il ne faut pas que le fisc tire un fil. Voilà, bon. Donc on a comme ça un espèce de spectacle grand guignolesque, mais qui est un peu tragicomique. Quoi. Voilà. Bon, et nous révélons tout ça. Après, ça fait, vous en souvenez peut-être, une forme d'incendie. dans la sphère publique. Et là, Madame Bettencourt, qui n'a, dont on sait aujourd'hui qu'en juin 2010, elle n'a absolument pas le contrôle de sa décision, hein, nous poursuit, et monsieur, alors ça c'est formidable, monsieur Demestre aussi, pour recel d'atteinte à l'intimité de la vie privée. Recel d'atteinte à l'intimité de la vie privée. Et donc, là, il y a un débat judiciaire qui est formidable et qui fracture la magistrature française, hein, qui la fracture totalement, qui est de considérer, est-ce que nous sommes passibles, nous, journalistes, nous n'avons pas commandité les enregistrements. Hein. Mmh. Moi, je connais... bon, Pascal Bonnefoy, j'y suis pas. Si j'avais commandité les enregistrements, j'aurais pas la même position. Bon. Ouais. Est-ce que nous sommes passibles d'un recel d'atteinte à l'intimité de la vie privée? Est-ce qu'il faut le lire juridiquement au regard du fait qu'un homme à poser un dictaphone sans le consentement des personnes qui vont être enregistrées et que la presse utilisera les informations contenues dans ce dictaphone comme constitutives du délit, ou est-ce qu'il faut regarder le contenu ? C'est-à-dire, est-ce que c'est le geste qui compte ou c'est le contenu ? Donc c'est un débat juridique absolument passionnant que la Cour de cassation a tranché d'un point de vue civil en notre défaveur, alors que nous avons gagné en première instance et en appel, mais ce qui nous condamne en France, c'est ce qui nous protège à la Cour européenne des droits de l'homme, la justice supranationale, qui... J'en fais le pari ici, fera condamner la France dans cette histoire où on marche sur la tête. Bon, et nous sommes poursuivis d'un point de vue civil et d'un point de vue pénal, hein, puisque c'est fromage et dessert avec Madame Bettencourt et surtout Patrice Demestre, qui est celui qui tire les ficelles à l'époque. Voilà. Et donc nous sommes pour le pénal dans une situation extravagante, puisque les informations que nous révélons sont à l'origine de 12 procédures judiciaires. Bon. Je raconte dans le livre, j'ai défriché les 21 heures d'enregistrement. Dans les 21 heures d'enregistrement, alors je vous passe tous les détails sur comment on a identifié qui est qui et comment on a eu la certitude que la bande était intègre, qu'elle n'était pas manipulée. Dans les 21 heures d'enregistrement, on a peut-être utilisé, je ne sais pas, 40 minutes pour faire nos articles.
Moins d'une heure, oui.
Moins d'une heure pour faire nos articles. Dans les 20 heures restantes, il y avait des informations qui, si on les avait rendues publiques, auraient fait un buzz, je vous assure, énorme. Mais nous avons considéré qu'elles relevaient précisément de la vie privée. Donc, moi, je me suis intéressé, à l'époque, avec Fabrice Lhomme, qui est depuis parti au Monde, et avec Edouard Plenel et François Bonnet, on s'est dit, bon, quelles sont les informations d'intérêt public ? La fraude fiscale, le financement politique, le trafic d'influence, la non-indépendance de la justice, tout ça n'appartient pas à la vie privée, à l'intimité de la vie privée, qui a encore une tenue juridique différente, de Madame Bettencourt. Donc j'estime que nous avons protégé la vie privée de Madame Bettencourt. Bon, nous sommes poursuivis au pénal, et en effet, le juge Gentil nous convoque ici pour nous mettre en examen. Et en fait, le juge avait, vous savez, souvent les juges, ils préparent leurs questions, elles sont déjà pré-rédigées par les greffières, et donc ça devait être une formalité. Et en fait, on s'est pris au jeu de la conversation avec le juge, au point où il rajoute 1, 2, 3, 10 questions, ça dure, je sais pas, 2 heures, 3 heures, et il me pose cette question, est-ce que vous pensez, monsieur Harfi, que ce qui est légitime est forcément légal ? Waouh ! Alors là, vous avez 4 heures.
J'ai pas 4 heures pour faire ma dissertation.
Voilà, mais c'était une conversation formidable où le juge était, je crois pouvoir dire que le juge a pris un vrai plaisir intellectuel à discuter de ce qu'était la justice et le journalisme. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'au pénal, donc, nous sommes mis en examen par le juge Gentil, qui estime qu'en l'état du droit positif, il n'y a qu'un tribunal qui peut juger si nous avons commis une illégalité ou pas, mais pas lui dans le secret du cabinet d'instruction. Voilà. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que la Cour de cassation, donc le tribunal suprême français, a consacré les jurisprudences. Sa chambre criminelle a dit que les enregistrements Bettencourt étaient des preuves judiciaires. Mais sa première chambre civile, elle, a dit qu'elle n'était pas des preuves pour les journalistes. Et donc ça, c'est intolérable, de mon point de vue. Je ne vois pas pourquoi ce qui serait bon pour la justice ne serait pas bon pour le droit de savoir des citoyens. Et donc là, il y a un conflit total à la Cour de cassation qui sera tranché par la Cour européenne des droits de l'homme. Et la conséquence de tout cela, elle n'est pas des moindres, puisque au civil, nous avons été poursuivis pour les mêmes faits où Madame Bettencourt et surtout Patrice Demestre, hein, qui est le deus ex machina de tout ça, demandaient la censure des articles de Mediapart, hein, en juillet 2010. Nous sommes passés devant le tribunal à Paris, nous avons gagné en première instance. La Cour d'appel nous a également donné raison, a même rédigé un jugement qu'on n'aurait pas osé écrire nous-mêmes, en écrivant noir sur blanc que censurer les enregistrements et les articles de Mediapart relèverait de quelque chose d'intolérable dans une démocratie. Et ça se retrouve à la Cour de cassation, devant la Chambre civile, laquelle casse l'arrêt de la Cour d'appel, le renvoie à la Cour d'appel de Versailles, et elle, pareil, Cour d'appel civile de Versailles, nous condamne, et nous condamne, accrochez-vous bien, ça n'est, c'est unique, hein, dans le, ça n'est jamais arrivé depuis l'histoire d'Internet dans notre pays, à retirer 70 articles de Mediapart du site. Donc si vous allez aujourd'hui sur les articles qui citent ou qui évoquent les enregistrements, tout ou partie, vous vous retrouverez sur le site avec un bandeau. Cet article a été censuré par décision de la Cour d'appel de Versailles. Donc on est, enfin, vous vous rendez compte, les, alors que il va y avoir un procès en janvier prochain et mars, dont les pièces à conviction sont les enregistrements. C'est-à-dire que pendant le procès, il se trouve même que le tribunal aura loisir de diffuser les enregistrements. Ça veut dire que les chroniqueurs judiciaires qui sont dans la salle, ils pourront parler du contenu des enregistrements, mais nous qui les avons révélés, qui sommes à l'origine des poursuites et du dit procès, nous sommes condamnés à la censure. Voilà. Donc c'est un exemple d'un point de vue du droit de la presse. J'ai un peu de ferveur par rapport à ça, parce que ça ne concerne pas Mediapart, hein, ce dont on parle. Le nouveau pouvoir en place a promis une nouvelle loi sur la presse depuis maintenant 3 ans. Nous n'en voyons pas la couleur, notamment sur la suppression d'un délit qui est celui de recel pour les journalistes, c'est-à-dire recel du secret, de violation du secret de l'instruction, ou recel d'atteinte à l'intimité de la vie privée. Bon, s'il y avait eu cette loi qui était passée, le délit qu'on nous reprocherait serait aujourd'hui caduque. Donc, c'est une question pour la presse en France qui est extrêmement importante. Je vous donne de se décentrer un peu. Aux États-Unis, il y a une énorme affaire en ce moment, immense, qui provoque des commissions d'enquête parlementaire, des enquêtes, etc. C'est une contrôleuse de la Fed, la banque fédérale américaine, qui a enregistré des conversations et qui montre que les plus hautes autorités bancaires américaines sont d'une complaisance, pour ne pas dire parfois d'une complicité vis-à-vis des manœuvres de grandes institutions bancaires. Bon, personne ne reproche aux journaux qui ont révélé ces informations d'avoir simplement fait leur travail. Au contraire, on se dit, bon, ça révèle des informations d'intérêt public, on se les approprie, on essaye de les traiter.
Alors, on vous écouterait pendant des heures, parce que c'est passionnant. Alors, si vous voulez d'ailleurs avoir le détail de tout ça, si je puis dire, et l'ensemble des contenus, je voudrais vous poser une dernière question qui est inspirée par une remarque que vous faites en écoutant justement les 21 heures de mots volés, là. Vous dites, il me vient cette image de cet agent de la Stasi qui écoute dans la vie des autres, hein, tout le temps, un couple. Hein, et vous vous interrogez vraiment, parce que c'est intéressant, le rapport que vous avez à votre travail. Vous dites, ce que je suis en train de faire, est-ce mal? C'est une question très normative, cela, en fait. Moi, je vous dis, vous dites, la question est inévitable, et juste après, la suite des événements me montrera que non, l'envers d'un monde allait être mis à nu. Hein. Et votre titre, c'est Voyage au bout de la corruption. Alors, il y a un clin d'œil. Sous-titre, hein, le sens des affaires. Hein, on voit bien l'expression là aussi, avoir le sens des affaires. Et qu'est-ce que c'est que le sens des affaires, hein. Il y a effectivement un jeu de mots. Voyage au bout de la corruption, bon, la question elle est inévitable, je ne suis certainement pas le premier à vous poser. Est-ce que ce n'est pas un peu le voyage au bout de la nuit quand même?
Alors, ben, d'abord, si j'ai mis ça et cet exemple-là, c'est vraiment pour montrer que le journalisme ne se fait pas d'un bloc, quoi. C'est-à-dire que nous sommes des petites consciences face à des matériaux parfois étranges, et évidemment nous passons notre temps à nous interroger au journal. Il y a Sophie Dufaux de Mediapart qui est dans la pièce, et nous passons notre temps au journal parce que nous ne sommes pollués par aucune question publicitaire ou d'audience du site. Précisément, nous n'avons pas conçu économiquement la production du journalisme autour de ces critères-là. Nous passons notre temps à réfléchir sur le journalisme et l'information. Et c'est vrai, j'avoue, je ne vais pas mentir, j'avoue que quand on écoute les enregistrements de Madame Bettencourt, les 21 heures, notamment ces 20 heures où il n'y a pas d'information d'intérêt public, il y a un malaise, il y a un vrai malaise, voilà. Mais pour décider, pour choisir, il faut tout écouter. Bon, il faut être curieux, c'est quand même la vertu numéro une de notre profession, d'être curieux. Et donc, à partir du moment où voilà, on apprivoise ce malaise-là, quand on écoute les enregistrements, dedans, il y a des informations. Elles contiennent des informations d'intérêt public. Et ça aurait été, c'eût été un crime pour le journalisme de ne pas enquêter, les vérifier et les publier. Voilà. Donc,
référence à Céline, alors.
Alors, enfin, oui, alors, est-ce que c'est au bout de la nuit oui, il y a. Moi, je pense vraiment, je pense qu'il y a un risque de nuit démocratique et que la corruption en fait partie. Parce que, et nous le voyons bien, voilà, regardez l'abstention, regardez le dégoût citoyen vis-à-vis de la classe politique, enfin, c'est pas normal.
Et vis-à-vis des journalistes, hein.
Et bien sûr, vis-à-vis des journalistes, c'est absolument pas sain, mais c'est pas la faute des citoyens. C'est pas la faute du peuple, c'est la faute du politique, c'est la faute des journalistes, c'est la faute de tout un système qui pense plus à sa préservation qu'au bien commun. Je le crois vraiment. Donc
on,
oui,
on
il y a,
prend,
bien sûr, il y a un danger nocturne.
Je veux pas. On vous écouterait. Malheureusement, vous repartez.
Non, je suis désolé.
Voilà. Merci beaucoup, Fabrice Harfi.
Merci
au public.